Évangile de Jean, chapitre 15. Je vais lire les versets 1 à 17. Jean, chapitre 15, versets 1 à 17. Je suis le vrai plant de vigne, et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai observé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est le commandement, quel est mon commandement, pardon. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Le chapitre précédent se terminait sur Jean 14, verset 31, se terminait sur cette parole de Jésus, « Levez-vous, partons d'ici. » Il est donc probable que Jésus et les onze s'étaient mis en chemin vers le jardin des Oliviers, où ils avaient l'habitude de se rendre. On peut penser, bien que le texte ne le dise pas, qu'ils sont passés près d'une vigne, ce qui a donné à Jésus une illustration pour l'enseignement que nous venons de lire. Donc verset 1, Jésus dit « Moi, je suis la vigne véritable ». C'est l'un des fameux « Moi, je suis » de Jésus rapporté dans l'évangile de Jean. Rappelez-vous, « Moi, je suis le chemin », « Moi, je suis la porte », « Moi, je suis le bon berger ». Là, « Moi, je suis la vigne véritable ». Jean nous a montré, au chapitre 2, verset 22, que les disciples de Jésus avaient compris, après coup, que lorsqu'il parlait de rebâtir en trois jours le temple qui allait être détruit, il faisait allusion au temple de son corps, c'est-à-dire que c'était lui qui était le véritable temple. Ici, il est la véritable vigne. Alors, pourquoi Jésus utilise-t-il le qualificatif « véritable » ? La métaphore de la vigne revient très souvent dans les écrits des prophètes de l'Ancien Testament et en particulier dans le prophète Ésaïe, comme on vient de le lire dans la première partie du culte. En Ésaïe 5, verset 7, voilà ce qui est écrit. « Or, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, dit le Seigneur des armées célestes. » Dans ce chapitre 5 d'Ésaïe, le Seigneur dit toute sa déception et sa colère contre la vigne qu'il avait lui-même plantée et dont il attendait de bons fruits. Or, elle n'a produit que des fruits infects. Aussi, il va ôter sa protection et l'abandonner. C'est ce qu'il dit dans ce chapitre. C'est pourquoi Jésus dit que lui, il est la vigne véritable, celle qui répond à ce qu'attend le Père. La vigne, comme vous le savez, comprend le cep et les sarments. Tout comme en 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul décrit l'Église de Jésus-Christ comme un corps dont Jésus est la tête et ses disciples, les chrétiens, sont les membres. Et cette vigne, le nouvel Israël selon le cœur de Dieu, nous avons lu que le Père s'en occupe activement. Jésus dit « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le coupe. » Tout autour de notre maison, à Châne, il y a des vignes. Je suis toujours étonné de voir comme le vigneron cultivateur taille sévèrement chaque cep afin que la sève se concentre dans les sarments choisis pour porter du fruit. On a lu dans notre texte « Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde ou le purifie afin qu'il en porte encore plus. » Le mot qu'on traduit dans ce passage généralement par « émonder » ou « nettoyer » signifie littéralement « purifier ». C'est étonnant, n'est-ce pas? Il le purifie pour qu'il porte plus de fruits. Au verset 3, Jésus continue sur cette notion de purification et s'empresse de dire à ses disciples « Mais déjà, vous êtes purs !» Un adjectif construit sur la même racine grecque que « nettoyer » ou « émonder », c'est aussi « purifier ». Vous êtes purifiés en raison de la parole que je vous ai enseignée. Rappelez-vous, Jean 13, verset 10, quand Jésus a voulu laver les pieds de ses disciples. Qu'il a lavé les pieds de ses disciples d'ailleurs. Il veut laver aussi les pieds de Pierre et celui-ci refuse dans un premier temps. Et comme Jésus insiste, Pierre lui demande de le laver entièrement. Pas seulement les pieds, mais tout mon corps, mes mains, ma tête, tout ça. Jésus lui répond, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes pur, a dit Jésus à ses disciples. » Les disciples de Jésus, en effet, à l'exception de Judas, étaient purs. Et cette purification était l'effet des paroles qu'ils avaient entendues de lui. Il ne s'agit bien sûr pas d'un effet magique de la parole de Dieu, mais de l'action purificatrice de cette dernière sur le cœur des siens. Paul d'ailleurs reprend cette notion en Éphésiens 5, verset 26 au sujet de l'Église. L'Église qui sont les sarments vivants porteurs de fruits. Paul écrit « Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par un bain nuptial. » L'Église est purifiée par sa parole. Bien sûr, la purification initiale est celle produite dans nos cœurs par le sang de Christ. Mais ensuite, il y a toute la marche chrétienne, et là, c'est la parole de Dieu, reçue avec foi et elle seule, qui purifie notre conduite. Alors, verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, s'il ne demeure dans le cep, de même vous, si vous ne demeurez pas en moi. » Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'injonction « demeurez en moi » est à l'impératif et à un temps qui indique une action complète vue dans sa totalité. Ce n'est pas demeurer en Christ partiellement ou par moment, mais un état complet et permanent. S'il nous arrive de nous éloigner un temps du Seigneur, ou que notre amour pour lui se refroidisse, n'imaginons pas que notre vie sera fructueuse pour lui. Ce sera malheureusement un temps de stérilité spirituelle. D'autre part, si nous imaginons que nous pouvons par nos propres forces porter du fruit pour le Seigneur, nous sommes dans l'illusion. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » Ce verset concerne le bois mort de la vigne, celui qui ne demeure pas dans le cep. Si on en veut un exemple, il suffit de voir le cas de Judas Iscariote, par exemple. Il faisait partie des disciples choisis par le Maître. Il a bénéficié de son amour et de ses enseignements. Et pourtant, ce sarment est resté stérile. Ces sarments dépourvus de la vie divine désignent probablement tous les pseudo-chrétiens qui ne le sont que de nom. Le Seigneur Jésus en parle, par exemple, dans la parabole des terrains, où la semence ne produit soit aucun fruit, soit pas de fruit durable, alors que dans la bonne terre, c'est l'abondance de fruits. Alors ce bois mort, mais il est coupé et jeté hors de la vigne où il sèche. Le texte dit littéralement « Il les rassemble et les jette au feu où ils brûlent ». Rassembler et jeter au feu a pour sujet le pronom personnel « il » au pluriel dans le texte original. Ça peut paraître curieux. Alors bien sûr, dans la plupart des Bibles, comme celle du Semeur par exemple et d'autres, on traduit par « on ». Mais ce « il » au pluriel est peut-être une allusion aux anges qui sont mentionnés dans une autre parabole en Matthieu 13, une autre parabole de Jésus. La parabole du bon grain et de la mauvaise herbe, ou ivraie. En Matthieu 13, verset 40, il est écrit « Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ils les jettent au feu et ils brûlent. » Le texte, là, ces verbes sont au présent. Le présent exprime, surtout dans le texte original, la durée. Donc un feu qui brûle toujours. Verset 7. Jésus revient à ceux des sarments qui demeurent en lui et portent du fruit. Il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Alors ça, c'est une promesse. Une promesse conditionnelle, mais une promesse formidable. La condition, c'est de demeurer en lui, c'est-à-dire de rester dans sa communion. Nous savons tous par expérience que bien des choses peuvent rompre momentanément, heureusement, cette communion. On voit que Jésus lie la persévérance chrétienne, se traduisant par une vie fructueuse, à la prière, et nous donne aussi l'assurance de la réponse à nos prières. Vous demanderez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Au verset 8, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Cette vie fructueuse à laquelle nous sommes appelés glorifie le Père et authentifie devant le monde notre qualité de disciple du Seigneur. Glorifier le Père était, vous le savez bien, le désir constant du Seigneur Jésus pendant son ministère terrestre. Il nous demande de continuer ce ministère pendant son absence par la force que donne le Saint-Esprit. Au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Demeurer en Jésus, c'est en fait demeurer dans son amour. Ce n'est pas une relation froide, intellectuelle, mais une relation d'amour, tout comme la relation de Jésus avec son Père. Mais cette relation est impérative, demeurez dans mon amour. Jésus veut que rien ne puisse altérer cette relation d'amour entre lui et les siens, et il attend d'eux qu'ils y prennent une part active. Verset 10, si vous gardez ou observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voilà la part active qui nous est demandée. Gardez les commandements de Jésus. C'est ainsi que nous démontrons notre amour pour lui et pour le Père. Et comme je l'ai déjà dit lors d'un précédent message, pas seulement les commandements qui nous plaisent, mais aussi ceux qui vont à l'encontre de la bien-pensance chrétienne qui préfère accommoder l'Écriture à la pensée ambiante du monde. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc ça ne sera pas froid ou triste. Observer les commandements de Jésus est source d'une joie qui n'a pas d'équivalent dans ce monde, une joie complète, une joie qui déborde. Verset 12, « Et voici mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors Jésus a donné bien d'autres commandements à ses disciples, mais celui-ci, manifestement, est le principal. Celui qu'il leur laisse comme un testament, alors qu'il va très bientôt leur être enlevé. Verset 13, « Personne ne peut donner de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. » Dans quelques heures seulement, les disciples vont assister à l'arrestation de Jésus et tout ce qui s'ensuivra. Judas va le trahir, tous vont plus ou moins s'enfuir, Pierre va le renier, le procès odieux va avoir lieu et finalement, l'abominable exécution du seul juste que la terre ait jamais porté. Cette preuve d'amour, Jésus va la leur donner d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée et qui va bouleverser de façon magistrale leur vie. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Cette relation d'amitié est conditionnée à notre obéissance au commandement de Jésus. Jésus peut nous appeler alors ses amis. Mais gardons-nous de toute familiarité. Lui peut nous appeler ainsi, mais pas nous. Il convient d'observer la distance respectueuse qui convient à la créature dans sa relation avec son Créateur. Verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alors je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu du Père, je vous l'ai fait connaître. » L'esclave ou le serviteur se contente d'obéir aux ordres du maître. Les amis de Jésus sont dans la confidence de ses desseins. Il nous les fait connaître par une révélation particulière de son esprit agissant en nous. Quelle position privilégiée que la nôtre, même en comparaison des plus grandes figures de l'Ancien Testament. Par exemple, Jésus a dit au sujet de Jean-Baptiste, en Matthieu 11, verset 11, « Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. » Bel hommage. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parce que dans la Nouvelle Alliance, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste qui appartenait encore à l'Ancienne Alliance. Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » Jésus avait dit cela aux douze alors que Judas faisait encore partie de la petite troupe de disciples. En Jean 6, verset 70, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les douze? Et pourtant, l'un de vous est un diable. » Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des douze, qui allait le trahir. Souveraineté totale du Maître, c'est moi qui vous ai choisi. C'est notre seul titre de gloire. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Donc littéralement, je vous ai établi afin que vous alliez et portiez du fruit. Jésus nous établit. C'est lui qui nous donne la position qu'il désire. Mais il nous établit pour aller. Là, c'est une mise en mouvement. Il ne nous place pas dans cette position extraordinaire pour que nous nous croisions les bras et attendions son retour dans une immobilité contemplative. Et cela pour porter un fruit durable. Verset 17, « Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. » À un enseignant de la loi qui lui demandait quel était le plus grand commandement de la loi, Jésus a répondu, en Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme il m'est difficile d'obéir à ce commandement. Comme la vie d'Église serait belle et glorifierait le Seigneur si nous y parvenions. Ce verset 17 semble être le meilleur des fruits que Dieu veut trouver dans sa vigne. Un amour véritable, tant entre frères que pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors que devons-nous retenir de ces 17 versets de Jean 15 ? D'abord que Jésus est la véritable vigne de l'Éternel, celle qui produit le fruit légitimement attendu, en contraste avec l'Israël rebelle qui n'a produit que des raisins infects, selon Ésaïe 5, verset 7. Cela nous fait mesurer le privilège de notre position dans l'histoire du salut, position qui nous est donnée par pure grâce et pour laquelle nous pouvons nous réjouir et louer le Seigneur. Deuxième chose, que c'est le Père qui prend soin de sa vigne, et notamment des sarments que nous sommes, produits par le cep qu'est Jésus. Il ôte les sarments stériles qui sont en réalité morts, même s'ils donnent l'illusion d'appartenir à la vigne. Ces sarments morts sont rassemblés et n'ont d'autre utilité que d'être brûlés. Il nettoie les sarments vivants pour qu'ils portent encore plus de fruits. Le terme utilisé veut dire purifier, on l'a vu. Nous avons besoin de la purification du Seigneur, souvent douloureuse, pour porter plus de fruits. Et le Seigneur prévient que séparés de lui, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire que nous sommes incapables de porter par nous-mêmes le moindre fruit qui ait de la valeur à ses yeux. Mais il veut que nous portions du fruit. Et le divin cultivateur fait tout ce qu'il faut pour cela. Cela ne signifie nullement que nous devons rester les bras croisés. Au contraire, établis dans cette position bénie dans le cep, il nous faut aller et porter un fruit durable. C'est-à-dire nous mettre en mouvement, mais en prenant bien garde de ne pas confondre notre propre volonté avec celle du Seigneur, ce qui sous-entend une communion étroite avec lui, notamment par notre vie de prière. Et le plus beau des fruits que le Seigneur attend de nous, c'est l'amour des uns pour les autres. Comme le dit Paul en 1 Corinthiens 13, en somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. On pourrait mettre le diaporama. Donc Jésus, la véritable vigne du Seigneur. On a vu que tout comme Jésus, le véritable temple, le véritable bon berger, etc., il est aussi, avec son corps terrestre, l'Église, la véritable vigne du Seigneur. Sous l'ancienne alliance, le peuple de Dieu, Israël, comparé à une vigne dont il a pris grand soin, n'a pas produit les fruits délicieux qu'il était en droit d'attendre. Il a été contraint de l'abandonner, au moins pour un temps. Jésus et son Église sont la vigne fructueuse de la nouvelle alliance. Dans cette parabole, Jésus identifie son Père au cultivateur qui prend soin de sa vigne. On dirait plutôt en français le vigneron. Ses soins comportent l'élimination du bois mort, les chrétiens de nom qui n'ont pas la vie en eux-mêmes, et la taille ou purification des sarments vivants pour qu'ils portent encore plus de fruits. C'est ainsi que Jésus image le travail de sanctification opéré par le Père dans nos vies. Bien que bénéficiant de la sève du cep, la vie divine, notre chair est toujours là, tentant de produire son propre fruit. Un tel fruit ne peut pas plaire au Seigneur. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous connaissez la liste des fruits de la chair dans Galates. Hein ? Alors une taille parfois douloureuse des œuvres charnelles est nécessaire. C'est la parole de Dieu ou de Jésus qui opère cette purification. Il faut donc lui soumettre tous les domaines de notre vie. Si séparés de lui, nous ne pouvons rien faire, en revanche, en lui, nous pouvons tout faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En Galates 5, 22, on a donc le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous remarquez que le premier nommé, c'est l'amour. En 1 Corinthiens 13, verset 13, en somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres, Jean 15, 17. Une telle insistance laisse penser que c'est là le fruit qui surpasse tous les autres. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous accorde de rester attachés au cep et de porter du fruit pour lui.